Salut à tous, c'est Augustin Lefebvre, journaliste à Radio Classique. Vous écoutez Retour vers le classique, le podcast qui réconcilie musique savante et pop culture. Dans cet épisode, on passe de la théorie à la pratique. Retour sur les liens entre musique classique et rap grâce à la pratique du sample. Le sample, c'est un petit bout de son, un échantillon isolé par un musicien qui le manipule, le transforme et le met en boucle pour en faire un morceau entier. Cet échantillon peut venir d'un autre morceau de musique, mais aussi d'une réplique de film ou d'une publicité par exemple, les possibilités sont infinies. Dans une émission précédente, que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas encore fait, j'ai discuté de cette technique avec le journaliste Brice Miclay. Il m'a raconté que les samples issus de la musique classique n'étaient pas fréquents dans le rap, mais qu'ils existaient, preuve de l'incroyable curiosité des beatmakers, ceux qui créent les instrumentaux sur lesquels on peut rapper. Pour mieux comprendre comment ce passage se fait concrètement, je suis allé voir mon ami Olivier, l'auteur de ce mélange entre Jean-Sébastien Bach et le groupe d'électro Ratatat. Olivier est chargé de production pour un ensemble de musique baroque et multi-instrumentiste. Il a lancé il y a quelques années sur SoundCloud un projet baptisé La Manufacture, du hip-hop instrumental aux sonorités nocturnes qui utilise beaucoup la musique classique. Vous allez entendre en direct la naissance d'un morceau inédit. Ce n'est pas un tutoriel, plutôt une démonstration. Ça va être un peu technique, mais si vous n'avez aucune connaissance musicale, pas de panique, on va y aller pas à pas. Il y a quatre grandes étapes, le choix du sample, l'ajout d'une batterie et d'une basse qui permettent de l'habiller, puis, une fois qu'on a cette base, la construction du morceau avec une structure, et enfin, les finitions. Tout se fait sur ordinateur avec un logiciel spécifique relié à ce qu'on appelle un clavier MIDI, c'est un petit piano électronique, et en une vingtaine de minutes, on a un résultat déjà très satisfaisant. En voilà la preuve.
Salut Olivier.
Bonjour Augustin.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui comme matériau de base ?
Alors j'ai cherché des trucs simples. Dans le classique, ce que j'aime bien, c'est quand il y a des cordes, quand il y a des nappes, quand il y a des choses qui prennent un peu de place. Au début, je prenais surtout du piano, du Chopin, du Schubert, ce genre de choses. Mais avec le temps, je me suis mis à aimer quand il y avait un peu plus d'ampleur. Et donc j'ai cherché un peu et j'ai trouvé un adagio en sol mineur d'Albinoni, donc un compositeur italien de la période baroque. Je te fais écouter le début du morceau, ouais. Là où j'ai trouvé le sample qu'on va utiliser. À partir de ce moment-là. Donc c'est généralement comme ça que je sample, en fait, j'écoute beaucoup de musique et une fois de temps en temps, il y a un truc qui accroche mon oreille et je me dis ça marcherait bien. Donc là, t'as le morceau en entier et ensuite, pour préparer un peu la chose, je t'ai isolé la partie qui m'intéresse, qui est donc ce passage-là. Une petite mélodie, une jolie phrase, c'est conclusif, c'est assez important dans un sample qui au final est assez court d'avoir...
Ça fait combien de temps là
Là, ça doit faire, je sais pas, ouais, même pas... Ouais, c'est ça, 7 secondes. Donc ça, c'est le matériau de base. Et le truc, c'est que dans la musique classique, souvent, il y a un feeling qui est assez libre, les tempi sont pas hyper marqués, etc. Donc même si j'ai ce sample que globalement, je touche pas trop, il y a quand même une petite partie où je vais le triturer pour qu'il puisse ensuite retomber sur ses pattes, sur une mesure à 4-4, vraiment simple. Et donc le sample prêt, on va dire, ça donne ça. Là, c'est une boucle. Et ça tourne. Donc je commence toujours par mon sample avec rien. Je mets bien sûr un métronome, parce qu'ensuite toute la construction elle est rythmique. En gros, c'est l'avantage d'avoir des samples, c'est que mélodiquement j'ai pas grand chose à ajouter. Ça va surtout mettre une batterie, mettre une basse qui vont donner, le côté rap du morceau. Donc pour faire cela, j'ai plein de banques de sons. J'ai plein de banques de sons, de grosses caisses, de caisses claires, etc. que j'utilise un peu à ma guise. Et comme là, c'est un son classique assez à l'ancienne, on va partir sur des banques de sons plutôt à l'ancienne. Donc en général, je commence par une grosse caisse, ce qu'on appelle un kick. On va prendre celui-là. Hop. En général, je commence par faire un rythme très très simple que je fais évoluer au fil du temps ensuite comme ça m'inspire. Mais globalement, le kick, il est sur le premier temps à chaque fois. Et ensuite, on mettra la caisse claire sur le troisième. C'est vraiment la rythmique de base des musiques actuelles. Ça fait la moitié du boulot ou presque.
Ouais, bah oui, là on passe du baroque direct.
Bah tout de suite, ouais, on a cette sonorité musiques urbaines qui s'installe. Et on va rajouter donc la caisse claire qui est la deuxième partie importante qu'on va donc mettre à chaque fois sur notre troisième temps. Et ça donne. Bête et méchant, mais ça fait le début. Et le troisième élément essentiel de la batterie, c'est les hats, c'est la charlet qui là va venir marquer tous les temps, 1, 2, 3, 4. On va essayer de trouver une bonne charlet.
Donc là, effectivement, on est dans un dossier sur ton ordinateur, quoi, et t'as une liste de... Une liste de pistes, et à chaque fois c'est un truc différent.
C'est ça, c'est ce que vous pouvez entendre, c'est... J'en ai des centaines comme ça, de sons différents.
Tu les as trouvés où ces sons? C'est toi qui les as isolés ou c'est...
Non, ça je le fais pas du tout. Les vrais le font. C'est un travail que je trouve très fastidieux. Ça m'arrive de temps en temps sur des caisses claires que je trouve vraiment bien, qui sont traitées d'une manière ou d'une autre, de les isoler moi-même. Mais globalement, c'est aussi l'avantage d'arriver dans les années 2010 et pas dans les années 80-90, quand tout Starla est né. C'est que sur Internet, j'ai des collègues qui ont fait ça très bien. Donc je me sers dans tout ce répertoire. Donc voilà, là, avec une charlet. Qui va donner un peu de... Un petit balancement... à l'ensemble. Donc là, c'est vraiment la structure de base, et ensuite tout le principe, ça va être de la faire évoluer un peu, de la modifier en appliquant des effets autant sur les percussions que sur le sample pour créer une évolution. Parce que ça, pendant 3 minutes, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais donc en jouant un peu avec tout ça, on peut apporter des choses. Donc ce que je commence par faire, c'est copier-coller ce truc de manière à peu près indéfinie. Et à partir de là, on va chercher un peu à apporter des effets, des transitions, du groove, etc. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va enrichir un peu cette base. On va partir sur une rythmique assez classique dans le hip-hop qui fait ton taf, ton taf, qui amène un peu de groove. Là, il y a déjà un petit groove supplémentaire. On va faire la même chose avec les charlets qu'on va décaler un peu pour mettre un peu plus de naturel et un peu moins de mécanique. Hop, on va les mettre là. Là, on a vraiment la base à partir de laquelle je vais pouvoir travailler. Et donc maintenant que j'ai fait ça, on reprend l'ensemble. Et on va essayer de créer un peu une structure qui pourra influencer l'hypothétique rappeur qui se saisirait de ce matériel pour en faire une chanson. Parce que le principe du beatmaking et de l'instrumental, c'est que ça a pas forcément vocation à être un produit fini. L'intérêt, c'est qu'ensuite, un rappeur, un musicien passe dessus et s'en serve. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se font en studio. Un rappeur prend une instru et avec son ingénieur son, va la modifier comme il veut. Mais moi, j'aime bien arriver et proposer un peu... proposer un peu quelque chose. Donc si on veut une introduction, on va prendre Hop, les 8 premières mesures, on va enlever toute la batterie. Hop, on va juste laisser le sample qui tourne. Et on va faire une petite levée juste avant le début.
La levée, pour ceux qui n'ont pas fait de solfège.
Bah, la levée, c'est qu'on commence... Bon, je ne fais pas partir ma batterie sur le premier temps d'une mesure, mais sur le dernier temps de la mesure d'avance, qui donne un espèce de punch inattendu à la chose. Et donc là, tu vas voir, avec juste l'intro, enfin, ce qui sera l'intro et la levée. Voilà, c'est juste aussi une manière pour le rappeur de voir quand ça commence et de pouvoir lui commencer sur le premier temps juste avant. Ensuite, c'est un travail que je fais un peu au hasard, un peu à l'intuition, d'enlever des choses, d'enlever des éléments une fois de temps en temps pour mettre un petit rebond inattendu ou de doubler des choses. Donc par exemple, on peut enlever cette caisse claire-là et la remplacer par une grosse caisse. Hop, hop. Ce qui casse un peu la chose. Place pareil, on va enlever une caisse claire, mettre un cut, donc enlever le sample. Et c'est comme ça progressivement qu'on habille l'instrumental pour le faire vivre un peu. Une fois que j'arrive à une construction comme ça, l'autre chose que je le fais pas toujours, mais c'est de rajouter une basse. Ça donne un peu de relief, ça met des nouvelles fréquences. Là, on est quand même sur un ensemble de fréquences qui sont très aiguës. Et donc, rajouter une basse, bah, ça permet de mettre quelque chose dans les graves, de rajouter du groove. Parfois, j'utilise une basse électrique que je joue moi-même. Mais c'est pas toujours le son que je cherche. Et là, j'ai envie de quelque chose de plus synthétique. Donc, on va aller chercher ce qu'on appelle une sub-basse. Hop, est-ce qu'on l'entend ? Donc voilà, c'est une basse très ronde, vraiment dans les graves. C'est un son qui n'a pas énormément de personnalité, on va dire, mais qui remplit bien le spectre. Donc on a dit que c'était en sol mineur, donc on va essayer de remplir un peu ça en sol mineur. Ouais, voilà, une petite progression comme ça.
Ouais, là, effectivement, t'enregistres la basse sur le clavier qui est relié... ordinateur.
Ouais, ouais, qui est un outil dont je me sers à peu près que pour ça quand je fais du hip-hop, parce que tout le reste donc se passe vraiment à la souris. Il y a aussi une école qui est celle d'utiliser beaucoup de machines, de sampleurs, etc. Moi, j'ai commencé par ne pas le faire parce que j'avais pas les moyens d'en acheter, et puis ensuite j'ai continué comme ça, tout simplement par habitude, quoi. Donc on a une base, on va faire tourner quelques mesures comme ça, et ensuite je vais filtrer un peu certains trucs. C'est-à-dire que pour créer de la variation, on peut donc enlever et rajouter des éléments ou tout simplement les traiter avec des effets, ce qui permet d'apporter un peu de relief. Par exemple, hop, repartons d'un cycle comme ça. On va filtrer le sample pour lui donner une autre sonorité. On va lui enlever les aigus pour qu'il tape plus dans les graves, pour qu'il laisse mieux ressortir la batterie. Tout de suite, il passe un peu en retrait. Avec la batterie qui sort un peu plus. On va rajouter une petite chose que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup fait, que je fais un peu moins maintenant parce que j'en ai perdu l'habitude. Mais sur mes premières instrus, je mettais toujours des samples de gens qui parlent au début, ce qui me donnait un peu un thème, une idée. Un sujet, c'était vraiment des trucs que je trouvais au hasard. Le premier que j'avais trouvé comme ça, c'était un truc de question pour un champion où Julien Lepers parlait du rap. Et là, je cherchais un peu tout à l'heure et j'ai trouvé des extraits de Lina assez marrants. La vidéo s'appelle 1970, de quoi se plaignent les jeunes. Partant de là, j'ai trouvé des extraits d'interviews qui peuvent matcher.
Personne n'est plus qualifié pour parler des jeunes et de leur malaise que les jeunes eux-mêmes. Alors j'ai demandé à un certain nombre d'entre eux de venir passer une journée avec moi. Je les ai écoutés. Eh bien maintenant, vous allez les entendre.
Ils nous traitent de casseurs. Beaucoup nous traitent de casseurs. Mais bien souvent, les casseurs, ce n'est pas ce qu'on croit. Si, ils nous traitent de casseurs justement parce qu'ils ne veulent pas que ça change.
Et on est parti.
t'as une instru finie que tu peux poster sur SoundCloud ou...
Ou presque. Ensuite, il y a un peu de travail de mix et de mastering. On va dire, là, ce que j'ai fait, c'est la composition, donc vraiment avoir mes éléments. Et ensuite, il y a un peu de travail pour les faire sonner comme je veux, pour, par exemple, que ça sonne un peu plus agressif, que ça rebondisse un peu plus. Mais globalement, ouais, là, j'ai la base. Ça va assez vite une fois qu'on a trouvé le bon sample et qu'on a un peu la mécanique de faire un beat comme ça.
On va discuter juste maintenant de ce projet. Déjà, la manufacture, pourquoi ce nom ?
Parce qu'il fallait un nom, en fait. J'ai commencé par faire des instrumentaux comme ça dans ma chambre et un jour, j'ai eu envie de les mettre sur SoundCloud pour pouvoir les partager aux copains, à ceux qui veulent, etc. Et la manufacture, d'abord, c'était un surnom qu'un de mes copains m'avait donné pour une raison obscure. Et puis surtout, j'avais trouvé que ça s'adaptait pas mal à cet art-là du sampling, qui est de prendre des choses, de les retoucher, de faire tout ça à la main, quoi.
Comment tu choisis tes samples ? Il y en a beaucoup dans la manufacture qui sont issus du classique. Comment tu les choisis ? Tu disais un peu au début, c'est des choses qui te restent dans l'oreille, mais est-ce qu'il y a des symboliques, des œuvres que tu aimes particulièrement ou que tu veux te réapproprier ?
Pas vraiment, à vrai dire, il n'y a pas vraiment ce côté-là. C'est des trucs que je trouve qui sont souvent issus de ma culture personnelle, parce que je viens d'une famille de musiciens, mon père est dans le jazz, ma mère est dans l'opéra, donc j'écoute énormément de musique, et ça vient plus de cette curiosité-là, quoi. Et un jour, j'ai fait comme tout le monde. À l'époque, je faisais des instrus, mais où je composais tout moi-même. Et un jour, j'ai samplé du Chopin, un nocturne de Chopin, ce qui est le truc le plus classique parmi les jeunes beatmakers, parce que c'est hyper efficace, il y a des mélodies hyper marquées, donc c'est vraiment le point du début. Donc j'ai pris ce Chopin-là, je l'ai samplé, j'ai bien aimé faire ça, et donc après, j'ai vraiment pris un peu toute ma bibliothèque iTunes, je faisais passer les trucs, et dès que j'entendais un morceau où je me disais « Ok, là, on a un sample », je le prenais, mais j'ai vraiment pris de tout et n'importe quoi. Je prends du classique, de l'électro, du jazz, c'est vraiment, je suis très très large, et la plupart des gens qui font des instrumentaux ont cette même méthodologie, quoi, qui est d'aller diguer, comme disent les hipsters, donc d'aller fouiller vraiment, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des disques ou des vinyles, et de trouver le sample qu'on a. Et ensuite, le petit jeu, c'est aussi de trouver le sample que personne d'autre a, quoi, parce que c'est toujours un truc un peu décevant quand on pense avoir trouvé un sample génial et qu'on le réentend dans l'instru de quelqu'un d'autre, on se dit, bon, bah, j'ai mal fait mon travail. Donc ensuite, le petit jeu, c'est d'aller chercher celui que les autres n'ont pas.
Tu parlais tout à l'heure de rappeurs qui poseraient leurs textes sur tes instrus. Ça t'est arrivé ?
Ça m'est arrivé, mais plutôt par hasard, parce que c'est jamais quelque chose que j'ai vraiment cherché non plus. Les beatmakers qui veulent placer des instrumentaux démarchent beaucoup, que ce soit par les réseaux sociaux, en s'adressant à des gens. Moi, j'ai mis mes trucs sur SoundCloud, et une fois de temps en temps, il est arrivé quoi, des gens s'en saisissent et me renvoient un peu plus tard un son. Parce que j'ai toujours donné ça gratuitement, j'ai pas fait ce projet pour gagner de l'argent. Donc ouais, j'ai eu quelques collaborations comme ça, mais qui étaient plus hasardeuses qu'autre chose. Moi, je considérais que mon travail, c'était de faire les instrus, et si quelqu'un les prenait, tant mieux, mais voilà, j'ai jamais cherché à les placer particulièrement.
C'était quoi les retours que tu as eus sur SoundCloud ? Justement, les gens s'amusent de retrouver ces samples.
Ouais, pas mal de curiosité, pas mal de gens qui me demandaient dans les commentaires d'où ça venait ou qui me faisaient des petites réflexions plutôt positives par rapport à des choix, notamment un truc où j'avais mixé du Bach avec du Ratatat, parce que Ratatat a une petite influence de ces musiques-là et où les gens voyaient le clin d'œil et l'appréciaient. Ouais, bah c'est un truc que les gens aiment bien, les gens qui aiment le sample, quoi. C'est aussi avoir des samples un peu inattendus, des mélanges un peu nouveaux, quoi. Et notamment sur le classique, j'avais samplé tout un truc, un extrait de pièce pour luth de Jean-Sébastien Bach, où j'avais eu des retours assez surpris, parce que il y a eu une grosse mode de sampler du classique dans les années 90. NTM l'a fait, Lunatic l'a fait, Boostaflex l'a fait, mais ensuite ça a un peu disparu, donc ça fait un peu, ouais, clin d'œil au passé, il y a des gens qui apprécient ça.
Tu continues encore régulièrement à sampler du classique ?
De moins en moins, à vrai dire, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, je l'ai beaucoup fait dans un premier temps et je samplais quasiment que ça. Donc à un moment, j'ai voulu voyager, aller un peu dans d'autres sonorités, notamment des trucs plus jazz. Puis il y a aussi ce fait que le classique n'est pas toujours facile à sampler. Un nocturne, c'est facile parce qu'il n'y a qu'un piano. Mais à une époque, j'ai essayé de sampler un peu d'opéra. J'avais fait un truc à partir d'un air de Werther, de Massenet. Mais dès que tu as un orchestre symphonique, que tu as 40, 60 musiciens, et bah, ton sample, il prend énormément de place et c'est beaucoup plus dur de trouver quelque chose d'exploitable. C'est pour ça que là, le Albinoni passe pas mal, parce que c'est des nappes de cordes, c'est assez léger. Mais voilà, parfois, le classique a trop d'ampleur. Et l'avantage du jazz ou d'autres musiques, c'est que c'est des formations plus réduite, quoi, qui permettent d'être plus libre avec le sample.
Merci, Olivier.
Mais de rien, Augustin. De rien.
Pour résumer cet épisode, le passage du classique au hip-hop peut être très rapide quand on sait manipuler les samples. Le classique, qui est une source comme les autres pour les beatmakers, toujours à la recherche d'une pépite musicale à transformer en échantillon. Mais la musique classique peut présenter des difficultés dans cet exercice puisqu'elle est parfois extrêmement ample et complexe. C'était Retour vers le classique, merci d'avoir écouté. Merci à Olivier pour cette démonstration. Pour en savoir plus, rendez-vous sur radioclassique.fr. Et si jamais ça vous a donné envie d'essayer, n'hésitez pas à m'envoyer le résultat. Vous pouvez me contacter sur Twitter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur les plateformes habituelles de podcast. À bientôt !